Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chebet.
L'évolution des sociétés dans le monde arabe aujourd'hui.
Voilà, avec notre invité Charles Thépeau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Armand Collin qui s'intitule « Le monde arabe en morceaux ». Une petite précision, évidemment, depuis fin 2010, le traitement de l'actualité politique a occupé le devant de la scène, c'est tout à fait normal. L'évolution des situations sur le terrain, le suivi des guerres civiles, les conséquences internationales, notamment diplomatiques. Mais en fait, les aspects socio-économiques, on va dire sociétaux, sont largement sous-estimés ou délaissés, dans la grande presse en tout cas en France. D'abord, ce sont des évolutions moins visibles, moins quantitatives, plus complexes. Alors on peut insister par exemple sur de considérables éléments que sont, et ce sont des chocs profonds qu'ont subi ces sociétés. D'abord les fortes poussées démographiques depuis 40 ans, 50 ans, souvent ce sont des pays qui ont triplé, voire quadruplé de population. L'analphabétisme dans certains pays, hélas, dans le plus peuplé d'entre eux, l'Égypte. Le chômage des jeunes considérable, l'arrivée brutale de la modernité via les télévisions et Internet, dans Internet évidemment les réseaux sociaux, on peut envoyer aux travaux de Yves González-Carnot qui a été notre invité à plusieurs reprises et qu'il faudra solliciter à nouveau, et puis les vagues massives de migration, et puis alors, une dernière chose quand même, ce qui est tout à fait dans le monde arabe, on a une lecture un peu univoque sur les combattants, on va dire, de part et d'autre, et en fait c'est le rôle de la femme qui sera essentiel dans les générations à venir, c'est elle qui va transformer pour tas de raisons les sociétés et non pas le résultat des conférences diplomatiques, on va dire, et des résultats des combats. Alors, vous êtes d'accord avec ces grands thèmes ?
Oui, tout à fait. Ce qui est frappant, c'est que depuis 2011 et même auparavant, les acteurs les plus violents sont ceux qui crèvent l'écran et occupent l'actualité de la zone, mais ils ne représentent qu'une partie de la réalité des sociétés arabes et qu'une partie de ce qui est issu des soulèvements de 2011.
Alors, vous insistez notamment dans un premier temps sur les migrations. Alors là, on peut les quantifier, mais en revanche, les effets sociaux, sociétaux, on pense par exemple à la région de la Syrie et du Liban, on voit la façon dont le Liban est de plein fouet touché par cette question-là.
Voilà, les migrations dans la zone font écho à une situation humanitaire très difficile dans un premier temps, mais à moyen et long terme, on peut également déceler des changements profonds en ce qui concerne la carte simplement humaine de la région, avec des zones qui pouvaient n'être peuplées que par une communauté et qui maintenant se retrouvent peuplées par plusieurs communautés avec des cohabitations et des coopérations entre les communautés qui se mettent en place dans l'urgence, dans la crise, mais qui ouvrent aussi un certain nombre de perspectives quant à la cohabitation des différents groupes de la région.
Alors on parle beaucoup des réfugiés en Europe, c'est tout à fait normal, mais en revanche il y a la question des déplacés, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays, ce qui bouleverse aussi des équations, comment pourrait-on dire, territoriales et politiques et confessionnelles.
Tout à fait. Dans un pays comme l'Irak, qui connaît un défi humanitaire assez majeur à mesure que l'organisation Daesh recule, on a des zones qui, par exemple, n'étaient simplement que chiites il y a quelques années, qui se retrouvent mélangées aujourd'hui avec des structures locales qui doivent s'adapter et qui permettent peut-être d'entrevoir des solutions locales de meilleure entente entre les communautés pour l'Irak du futur. Les migrations, c'est aussi des mouvements un petit peu moins intuitifs quand on les regarde dans le détail. Vous avez dans la région des villes comme Abu Dhabi, Doha, Dubaï, qui depuis plusieurs années accueillent un certain nombre de jeunes très éduqués qui, par manque d'opportunités dans leur propre pays, se sont installés dans le Golfe. Et ces villes se mettent ainsi à représenter des capitales culturelles, intellectuelles pour la région et seront capables aussi de formuler peut-être des nouvelles alternative pour la région tout entière.
Alors il y a des causes évidemment, on va dire, politiques, confessionnelles dans tous ces conflits depuis fin 2010. En même temps, il y a des causes aussi, on pourrait dire, qui sont sociétales parce que ces pays sont devenus hypertrophiés. Parce que quand on regarde les chiffres, l'Algérie qui a connu sa guerre civile d'ailleurs, dans les années 90, 9,5 millions d'habitants à peu près au moment du départ des Pieds Noirs, en 62, lors de l'indépendance, dites pour 39 millions d'habitants aujourd'hui, c'est quadruplé de population en si peu de temps. C'est à peu près le même ratio pour le Maroc depuis l'indépendance pour le Maroc, c'est-à-dire 56. C'est-à-dire que, et même chose pour le Proche-Orient d'ailleurs, des pays comme la Syrie, comme l'Irak, etc., ont littéralement gonflé de population en 45 ans. On minimise. Les démographes, ils sont très attentifs.
Les démographes, ils sont très attentifs, et cela signifie pour les gouvernements et pour les organisations internationales des défis considérables pour ce qui concerne les infrastructures d'enseignement supérieur, d'éducation. L'enjeu de l'éducation primaire et secondaire est majeur dans la région, et ce qui invite à regarder dans le détail un certain nombre de phénomènes, comme par exemple un problème qui se pose dans le contenu des manuels scolaires dans la région, avec en fonction des pays certains contenus qui peuvent être très rigoristes et donc qui vont déterminer la conscience politique d'un certain nombre de générations. Mais dans le même temps, on a eu des innovations assez importantes, par exemple dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, qui essayent de trouver des solutions avec des modèles hybrides d'enseignement public ou privé, avec l'ouverture de campus internationaux pour accueillir des établissements connus internationalement. Et donc c'est toute cette variation, entre guillemets, dans la région qu'il convient de regarder pour avoir une analyse un peu plus exacte de ce qui s'y joue.
Alors il y a une autre chose pour ces sociétés, on en parle globalement, c'est toujours une erreur, parce qu'elles sont, quand on connaît tous ces pays, très différentes les unes des autres, donc on a tort de généraliser, mais quand même, il y a la venue des télévisions internationales depuis 30-40 ans, il y avait les radios internationales en arabe qui étaient très importantes, autrefois télévision, et puis internet, les réseaux sociaux. Alors ce n'est pas du palpable, c'est difficile à quantifier, heureusement il y a des travaux, souvent de sociologues, mais quand même ça a une influence sur la façon dont les jeunes, au fond des campagnes, on va dire, ou des provinces, regardent le monde.
Tout à fait. Les réseaux sociaux jouent actuellement effectivement le rôle que les radios jouaient dans les années 70 et 80, avec le même phénomène de fragmentation et d'atomisation des audiences qui segmentent aussi le public arabe. Et ensuite, des phénomènes différents, mais qu'il convient de noter. Un exemple tout simple, on observe grâce aux réseaux sociaux la multiplication de déclarations publiques, donc d'individus qui n'ont plus peur de se dire dans une société arabe qui, dans certains cas, est relativement conservatrice, de se dire athée. Et on observe des pages Facebook qui ont plusieurs milliers d'abonnés.
Athée ou agnostique, parce que c'est
alors,
pas la
vous
même
avez
chose.
Les deux. Vous avez
parce que c'est l'athéisme est quand même plus violent dans ce type de société que l'agnostique.
Mais pour vous donner une idée des proportions, il y avait en 2012 un sondage de l'Institut Gallup qui était fait sur l'ensemble de la zone, et on obtenait des résultats assez étonnants quand on a la perception européenne, puisque 19% des sondés en Arabie Saoudite se disaient sans religion, et 5% des sondés se disait athée convaincu.
Quand vous dites la zone, c'est plutôt alors proche Moyen-Orient que l'Afrique du Nord.
Afrique du Nord et Moyen-Orient.
Les deux, d'accord. D'accord. Donc, et puis alors il y a une chose, encore une fois, il faut insister là-dessus, c'est que ces sociétés évolueront par la femme qui transmet les valeurs, etc. On a vu qu'une femme analphabète, ou une maman plutôt analphabète, était très dommageable à l'équilibre des sociétés, et qu'elle était très difficile à alphabétiser à l'âge de 20 ans, que ça coûtait très cher, et ainsi de suite, et qu'elle transmettait d'autres valeurs qu'une maman alphabétisée. Et que c'est la femme qui sera essentielle dans les générations à venir. Et pas l'évolution des régimes politiques accompagnera éventuellement, on l'espère.
Sur ce point, il y avait eu des travaux assez éclairants d'Emmanuel Todd et de Youssef Courbage qui, dans 2007, avaient pointé les convergences en termes de lutte contre l'analphabétisation et le taux d'emploi des femmes dans la région, et qui montraient qu'à long terme, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient rejoindraient l'Europe sur ce point-là. Il pointait du doigt la difficulté du chemin et les potentielles déstabilisations pour les sociétés locales, mais indiquait bien que ces tendances verraient la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient et l'Europe se rapprocher.
Voilà, merci beaucoup en tout cas de cet éclairage, on va dire, social, sociétal, Charles Thépeau. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde arabe en morceaux » chez Armand Collin, qui a beaucoup de développement, évidemment, d'ordre politique, militaire, diplomatique, religieux, bien entendu. C'est une sorte de somme très, très commode à lire, parce qu'elle est développée d'une façon séquentielle. Merci beaucoup donc, et franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger.
Merci à vous Thierry Garcin et à Charles Thépeau qui était avec nous en plateau. Et demain, Thierry, la question, peut-on prévenir les interventions militaires internationales en Afrique subsaharienne?
Voilà, c'est une vieille question et en même temps, c'est une question renouvelée. Notre invitée sera Amandine Nguénon, qui est chercheuse associée à l'Université d'Auvergne.